Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Marine Digabel.
Bonjour. De 1295 au début du XVIIe siècle, la Vieille Alliance a créé des liens très étroits entre la France et l'Écosse. Une amitié qui s'est incarnée jusque dans une double nationalité accordée sur simple demande jusqu'au début du XXe siècle. De tels traités ont naturellement suscité un trafic intense entre les deux royaumes. Il s'est manifesté de façon très concrète, dans des influences linguistiques réciproques, et pour certains, le mot « haggis », plat national écossais, viendrait du français « achille ». Après tant de siècles d'échanges militaires, commerciaux et culturels, qu'en est-il de l'amitié franco-écossaise ? Eh bien, elle s'incarne dans plusieurs associations, dont la Franco-Scottish Society, qui s'attache à promouvoir les échanges culturels entre la France et l'Écosse. Pour nous présenter cette association, nous accueillons Elizabeth Laidlaw, ancienne secrétaire générale de l'association, et James Laidlaw, professeur honoraire à l'Université d'Édimbourg et ancien trésorier de l'association. Elizabeth et James, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous de nous avoir invités à parler un petit peu de la France que nous aimons tant.
Alors comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser aux relations franco-écossaises ?
Eh bien, ayant étudié le français à l'université, nous sommes tombés amoureux, disons, de la France et des Français. Et en apprenant qu'il existait déjà depuis bien des années une association franco-écossaise, nous avons voulu participer à ce groupe.
Cette association existe depuis longtemps. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur son histoire ?
Mais oui, l'association franco-écossaise a célébré en 1995 son centenaire. C'est-à-dire que l'association, avec une branche en Écosse et une branche ancrée sur Paris, en France, est née déjà à la fin du 19e siècle. Ce n'était pas un accident, parce qu'à ce moment-là, les universités en Écosse commençaient à établir les études de langues vivantes, dont le français principalement. Donc, c'est la formation de cette association s'est donnée, si vous voulez, une tâche pour aider les étudiants, pour les informer, les renseigner sur la France, pour les mettre en contact avec des Français, pour les encourager à y aller personnellement, eux-mêmes. Et ils ont même publié des renseignements sur les chemins de fer, les hôtels, etc., pour les aider.
Vous avez dit que l'association avait une branche en Écosse et une branche en France. Est-ce que c'est très centralisé ? Comment ça s'organise sur place ?
Bon, en Écosse, et depuis quelque temps déjà, l'association a des branches un peu partout dans le pays. Il y a des branches de l'association, par exemple, à Aberdeen, à Glasgow, à Édimbourg, à St. Andrews, et sur la côte ouest, à Helensburgh, dans le sud, dans les comtés de Dumfries et Galway. En France, par contre, l'association a une présence bien connue à Paris et a des contacts, par exemple, avec des villes comme Aubigny-sur-Nère, mais en réalité n'a pas un réseau de par le pays de la même façon qu'en Écosse.
James Laidlaw, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur les activités de la branche d'Édimbourg, par exemple ?
Oui, alors la branche d'Édimbourg organise des rencontres presque tous les mois à partir du mois d'octobre et l'année de l'association se termine en mai. Oui. Et nous avons quelquefois des conférences, et par exemple une conférence assez récente sur les beaux-arts en France. Et hier soir, une conférence donnée, une causerie plutôt, donnée par la bibliothèque de l'Institut français d'Écosse, qui nous a expliqué comment les bibliothèques se sont transformées assez récemment en médiathèques. Donc il a été très intéressant de suivre l'évolution de ces institutions vénérables que sont les bibliothèques. Et on n'a pas que des conférences et des causeries, il y a des excursions de temps en temps, il y a des soirées sociales, par exemple, et des soirées gastronomiques. Donc oui, on fait un peu de tout.
Et alors, on parle français ou anglais ?
Les conférences de la branche d'Édimbourg sont parfois en anglais, parfois en français, mais je pense que la majorité à Édimbourg se font en français,
oui.
Ce que la plupart de nos membres comprennent très bien.
Outre les conférences et les excursions, est-ce que certains événements viennent rythmer la vie de l'association de façon récurrente ?
Mais oui, presque tous les ans, il y a des échanges de visites. Il y a 2 ans, la branche écossaise de l'association a été reçue en France et nous avons pu faire un beau voyage dans le sud-ouest de votre pays, tout organisé et préparé par nos collègues, nos confrères, nos amis de l'association franco-écossaise de Paris.
Cette association existe depuis un petit peu plus d'un siècle. Elle prolonge une longue tradition, je pense, d'échanges et d'influences culturelles entre la France et l'Écosse. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ?
Moi, je dirais que l'existence qui continue toujours de cette association franco-écossaise est une manifestation de l'amitié très durable entre la France et l'Écosse et qui a ses racines dans le Moyen-Âge.
Et j'ajouterais que, par exemple, nous préparons une conférence importante cette année qui va célébrer l'anniversaire de la naissance de George Buchanan, un nom qui n'est peut-être pas très connu en France, surtout chez les non-spécialistes, mais qui a été le professeur de Montaigne et qui est rentré en Écosse, où il a été un professeur extrêmement important à St. Andrews, et il a été aussi le professeur des rois écossais de cette époque-là.
Est-ce qu'on a d'autres exemples de penseurs écossais qui ont durablement influencé la France ?
Mais il y a aussi Duns Scotus, qui date du 11e, 12e siècle, il me semble. Alors, on dit qu'il vient du petit village de Duns dans le Berwickshire, mais ce n'est pas tout à fait certain. Et qui encore ? Il y a le siècle des Lumières et des penseurs, des savants comme Hume, par exemple. Et Hume a passé un certain temps en France et aussi Robertson. Et à ce moment-là, des penseurs français se sont rendus en Écosse pendant le XVIIIe siècle parce qu'ils voulaient faire la connaissance de certains savants écossais comme Hume, comme Robertson, etc. Donc il y a par exemple Diderot qui est venu en Écosse. Donc nous avons eu nos visiteurs littéraires célèbres comme par exemple dans le temps il y avait Ronsard qui est venu en France avec la reine Marie quand elle est rentrée.
À une époque antérieure, il y avait aussi Froissart qui a visité l'Écosse et qui est parvenu jusqu'au nord d'Aberdeen, ce qui est vraiment étonnant.
Il tenait à se renseigner sur les guerres anglo-écossaises et bien entendu anglo-françaises. Et donc, il a fait un voyage jusqu'à l'ouest d'Aberdeen. Ça a été extrêmement difficile. Donc, il parle à plusieurs reprises de la sauvage Écosse. Donc, la vie pour lui a été relativement dure. Mais il a vu le roi David et il a pu parler avec le roi David. Et comme ça, il s'est renseigné sur les relations franco-écossaises, les relations aussi anglo-écossaises. Et ça, ce qui lui a permis d'écrire quelques chapitres très intéressants dans ses chroniques.
La conférence consacrée cette année à Buchanan est-elle une conférence exceptionnelle ou est-ce que vous organisez régulièrement des événements d'une telle ampleur ?
Cette conférence de cette année sera unique, évidemment. Mais on a une Lansdowne Lecture, c'est comme ça qu'on l'appelle, parce que notre ancien président, le Lord Lansdowne, a légué de l'argent à cet effet à la société. Donc tous les 2 ans, on organise une conférence ouverte au grand public et à laquelle vient quelquefois un groupe de Paris ou de France en général. parce qu'on essaye de choisir un sujet qui mérite l'attention d'une société franco-écossaise.
Quels sujets ont déjà été abordés par le passé ?
Il y a eu par exemple une conférence sur la Première Guerre ou les événements qui ont précédé la Première Guerre mondiale. Et aussi une conférence sur la grande exposition de Paris qui date de 1911 ou 1901 à peu près, donc un peu avant la création de l'association franco-écossaise à Édimbourg. Et notre président actuel, Sir David Edward, qui dans le temps était le juge britannique à la Cour d'Europe à Luxembourg, a donné une conférence sur la loi européenne, donc sur le rôle que joue la Cour dans la vie britannique, parce que les décisions de la Cour ont beaucoup d'influence sur la jurisprudence britannique.
L'association franco-écossaise travaille-t-elle avec des partenaires ? Vous nous avez parlé tout à l'heure de l'Institut français d'Écosse. Est-ce que vous avez d'autres contacts avec des associations ou des institutions qui participent à la promotion de la langue française en Écosse ?
Mais oui, c'est bien le cas. Nous avons des rapports en France avec non seulement l'association franco-écossaise à Paris, mais avec des villes jumelées, avec des villes ou des villages en Écosse, dont par exemple Aubigny-sur-Nère et en Berry, avec Haddington au sud-est d'Édimbourg en Écosse. Et par exemple, il y a des petits groupements de villages dans les borders qui ont un contact très vivant avec des écoliers d'âge très jeune en France et qui font des échanges par ordinateur. Donc, on est tout à fait dans le présent, dans l'actualité en ce qui concerne la technologie et les contacts.
Nous avons vu dans une autre émission que l'histoire de la France et l'Écosse avait été riche d'une alliance. Est-ce que vous pensez que ça a une influence aujourd'hui sur l'accueil qu'on réserve aux Français et à l'art français, par exemple, en Écosse ?
Oui, c'est très vague cette idée, mais je pense que c'est vrai quand même. Et je sais de par ma propre expérience qu'en arrivant en France, je me suis sentie tout de suite accueillie comme une des nôtres, disons. Je me suis tout à fait sentie chez moi parmi les Français. Et c'est l'expérience de beaucoup de personnes de notre connaissance.
Il faut ajouter tout simplement que tous les touristes français se sentent aussi chez eux en Écosse, qui sont toujours les bienvenus. Et beaucoup de nos amis nous ont dit qu'ils ont été très frappés par la chaleur de l'accueil qu'on leur a réservé.
Vos amis français ?
Oui, nos amis français, oui.
Alors justement, est-ce qu'une association comme l'association franco-écossaise est une opportunité pour nouer des liens d'amitié au-delà des frontières ?
Mais bien sûr, je pense que dans ce monde où les contacts se font très souvent à distance et très facilement maintenant à distance, le contact personnel direct entre les gens d'un pays et les habitants d'un autre engendre une intimité, une confiance, une amitié qui n'est pas possible par d'autres moyens.
Elisabeth Laidlaw et James Laidlaw, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et à bientôt en France.
À bientôt en France, oui, à très bientôt.
Avec plaisir, merci infiniment. Thank you.